Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 15h.
Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs.
Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Mais d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Une jubilation du mot, voyez-vous, une joie de la syllabe, fait une espèce de dégustation charmante des vocables.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans DT Fabula Narratur, votre émission de collage littéraire et d'exercice de style. Nous sommes cette semaine en compagnie de Victor, Estelle, Nicolas et moi-même Arthur, et nous allons poursuivre et achever aujourd'hui notre cycle d'émissions dédiées à la thématique du sauvage. Le voyage entamé par notre voyageur imaginaire après les péripéties, les découvertes et les confrontations des épisodes précédents nous emmènera à la rencontre de notre propre nature, une nature dont le souvenir habille, et voile le sauvage, peut-être que nous sommes tous. Vous retrouverez également vos rubriques préférées en deuxième partie d'émission. Mais avant toute chose, commençons par lire le courrier des lecteurs, courrier que vous pouvez également nous adresser et qui sera peut-être lu à l'antenne.
Oui, on rappelle l'adresse à laquelle on peut nous écrire, fabula.narratur chez @, c'est-à-dire chez laposte.net. Et cette semaine, on a reçu un courrier, on en a pris pour notre grade. Ça commence fort, hein. Bonjour à votre soi-disante rédaction. Coup de gueule contre votre émission qui accumule les indignités. Quelles sont-elles? J'y arrive. Pour commencer, vous faites comme si vous aviez un débat spontané et contradictoire dans vos premières 20 minutes. Non seulement on sent bien que c'est du pipeau, mais en plus vous faites comme si vous étiez les auteurs des textes que vous pillez éhontément à de vrais écrivains et écrivaines. Le pire, c'est que pour la plupart, ils sont morts et enterrés. Et franchement, voler des morts, a fortiori incapable d'élever la voix pour se défendre, c'est bien la pire des bassesses dont l'univers des médias est capable. Et durant toute votre émission, vous continuez avec vos procédés crapuleux. Tenez, votre rubrique aléatoire, déjà vous faites comme si elle était tirée au sort en direct, encore du pipeau, je parie. Et pour ne parler que du dernier, les amateurs d'Oinos d'Ampophilos, c'est un scandale déontologique. Quel amateurisme! Le béaba de l'éthique du journaliste, c'est autant que possible de ne pas rapporter au discours indirect la parole des interviewés. Et tandis qu'on brûle d'entendre les Grecs, qui sont comme... chacun sait, au centre d'une actualité vraiment dense et cruciale, avec le bras de fer perdu des gauchistes au pouvoir et l'arrivée par milliers des réfugiés, on voudrait entendre les Grecs et pas un seul son revenu de l'Antique Cité. C'est une honte qu'un tel sujet, dit notre auditeur en colère, c'est une honte qu'un tel sujet passe au travers de la rédaction sans être repris. Et en plus, il manque son angle. Le problème est évidemment la consommation d'alcool et les interdits religieux. Parce que c'est un secret de Polichinelle qu'à Ampophilos, les poursuivants de Dionysos ont interdit aux citoyens sobres l'accès à l'agora. Comment passer à côté de ce fait d'intolérance pour finalement nous servir sans commentaire la parole d'ivrogne? C'est dégoûtant. Voilà, c'est signé un journaliste en colère. Et bon, au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'est pas à l'écoute des critiques de nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous écrire nombreux. Voilà pour le courrier cette semaine.
Merci Nicolas pour nous avoir lu ce courrier un peu énervé, mais bon, on entend très bien les critiques, hein, ça nous fait plaisir. Nous sommes preneurs de tous les retours que vous avez en tête, hein, n'hésitez pas surtout à les communiquer, surtout s'ils sont formulés avec autant de style. Voilà, je vous propose de passer maintenant à la partie principale de notre émission.
En littérature, ce qui est sauvage seul nous attire. Sagesse et douceur sont synonymes d'ennui. Ce qui nous ravit dans Hamlet, dans l'Iliade, dans les livres sacrés et les mythologies, c'est le non familier, le non civilisé, la pensée libre et vagabonde, ce qui n'a pas été appris à l'école, ni raffiné, ni poli par l'art. Un vrai bon livre est quelque chose d'aussi naturel, primitif, sauvage, d'aussi mystérieux et merveilleux, d'aussi ambrosiaque, d'aussi prolifique qu'un lichen ou un champignon.
De temps en temps, il essuie des tempêtes, il descend sur les côtes de Thrace pour essayer de se ravitailler. Là, ils sont attaqués par les habitants du pays, ils perdent beaucoup de bateaux et d'hommes, et ils repartent, et ils arrivent finalement au bout de la Grèce, à ce qu'on appelle le Cap Malais. Ce n'est plus les eaux de Grèce, déjà, ce sont une mer plus vaste, dans une espèce de monde qui est un monde qui n'est plus le monde des hommes, non seulement qui n'est plus le monde des Grecs, mais qui n'est plus un monde humain. Pourquoi ? Parce que pour les Grecs, même s'ils sont ennemis, même s'ils se battent, il y a des règles. Les hommes, nous, qu'est-ce qu'on est pour les Grecs ? On est des hommes mangeurs de pain, buveurs de vin. Ça veut dire qu'on est des agriculteurs, il y a des champs, il y a des charrues, on cultive, il y a des céréales et on mange le pain. Et aussi, il y a des vignes qui sont cultivées. Ça n'est pas la terre sauvage, c'est la terre cultivée. Première chose, manger le pain, boire le vin comme les hommes. Et deuxièmement, les hommes reconnaissent les dieux. Ils savent que tout n'est pas permis. Ils savent qu'il y a au-dessus d'eux des puissances qui les regardent, qui les observent, qui les jugent. Et que par conséquent, si c'est à eux de décider ce qu'il faut faire ou ne pas faire, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et en particulier, il y a un point sur lequel tous les Grecs, tous les Troyens, tous les gens d'Asie mineure, tous les gens de la Grèce continentale, de la mer Noire, sont d'accord, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Quand on est chez soi et qu'on voit arriver quelqu'un qu'on ne connaît pas, un étranger, quelqu'un d'autre, et qui vient vous demander appui, il devient vous supplier de l'accueillir. Alors la règle, c'est toujours qu'on l'accueille. Et que si on ne l'accueille pas, Zeus, le Zeus des étrangers, le Zeus de l'hospitalité, Zeus Xenios, dit les Grecs, est scandalisé. Et à partir du moment où ils ne sont plus dans ces eaux grecques, Ulysse et son bateau va être dans un monde de fantasmagorie où il n'y a plus d'hommes, proprement dit. Il n'y a plus de mangeurs de pain, de buveurs de vin, et il n'y a plus de gens qui respectent l'hospitalité. Ou bien, on a affaire à des espèces de dieux, on les appelle les immortels bienheureux. Eux, ils ne sont pas dans le temps, ils n'ont pas à naître, et ils n'ont pas non plus à mourir. Ils sont ce qu'ils sont, ils sont là. Et ils sont là et ils ne bougent plus. C'est un monde où il y aura des gens de ce type, des déesses immortelles, un monde où les puissances nocturnes, aux yeux des Grecs, tout ce qui s'appesantit sur vous, sont maîtresses. Et comment est-ce que ça se passe? Au bout de 9 jours de tempête, il ne sait plus où il est, avec ses navires, il aborde sur une côte qu'il ne connaît pas. Où est-ce qu'il est? Il n'en sait rien. Il envoie 3 des marins pour se livrer à un travail d'exploration. Hein. Allez voir où est-ce qu'on est, qui est-ce qui habite là, si c'est des gens prêts à nous tuer ou si c'est au contraire des gens qui vont nous ravitailler et nous aider. Et le pays où ils sont s'appelle le pays des lotophages. Ce n'est pas des mangeurs de pain, ce sont des mangeurs de lotos. Le lotos, c'est une plante, et c'est une plante magique d'une certaine façon. C'est une plante qui, dès que vous l'avez mangée, vous fait tout oublier. Vous ne vous souvenez plus de rien, ni de ce que vous êtes, ni des raisons pourquoi vous êtes là. Si vous voulez, ce monde où il aborde, c'est un monde qui est placé sous le signe de l'oubli. Alors les trois gaillards arrivent là, les lotophages les reçoivent très gentiment, mais venez donc, vous allez bien boire un coup, etc. Et ils mangent le lotos. Et à peine le lotos mangé, pouf, ils ne se souviennent plus de rien. Et ils n'ont plus aucune envie de rentrer chez eux. Et quand ils retrouvent Ulysse, Ulysse leur dit, qu'est-ce que vous avez vu ? Lotos, lotos. Mais pourquoi lotos, lotos ? Lotos, lotos. Ils ne se souviennent plus de rien. Et alors Ulysse dit, bon, on rembarque. Non, non, on reste là. Ils n'ont qu'une idée. Ils n'ont plus de passé. Ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont plus d'identité. Alors, une seule idée, bon, on ne bouge plus, on se met derrière quelque part, et puis on reste là. Ulysse les prend par la peau du cou, paf, il le refout dans les navires, et en avant, ils repartent.
Ah, les paquebots, les charbonniers, les navires à voile. Ils se font de plus en plus rares, pauvres de moi. Les navires à voile sur les mers. Et moi qui aime la civilisation moderne, moi qui embrasse de toute mon âme les machines, moi l'ingénieur, moi le civilisé, moi élevé à l'étranger, je voudrais encore une fois n'avoir devant les yeux que des voiliers et des bateaux de bois. Ne savoir d'autre vie maritime que l'ancienne vie des mers. Parce que les mers anciennes sont la distance absolue, le pur lointain, libéré du poids de l'actuel. Et, ah, comme ici tout me rappelle cette vie meilleure, ces mers plus grandes, parce qu'on naviguait plus lentement, ces mers mystérieuses, parce que sur elles, on en savait moins. Tout vapeur au loin est un bateau à voile proche. Tout navire distant, vu maintenant, est un navire dans le passé vu de près. Tous les marins invisibles à bord des mers, tous les marins visibles du temps des vieux navires, de l'époque lente et voilière des navigations périlleuses, de l'époque de bois et de toile des voyages qui duraient des mois. M'envahit peu à peu le délire des choses maritimes. Me pénètre physiquement le quai et son atmosphère, le clapotis du Tage submerge mes sens et je commence à rêver. Je commence à m'envelopper du rêve des eaux. Commencent à s'enclencher les courroies de transmission de mon âme, et l'accélération du volant me secoue nettement. Les eaux m'appellent. Les mers m'appellent. Les lointains d'une voix corporelle qui s'élève m'appellent. Les époques maritimes toutes ressenties dans le passé se mettent à appeler. Toi, marin anglais, Jim Barnes, mon ami, c'est toi qui m'as appris ce tri très ancien. Anglais. Qui si vénéneusement résume, pour les âmes complexes comme la mienne, l'appel confus des eaux. La voix inédite et implicite de toutes les choses de la mer, des naufrages, des voyages lointains, des traversées périlleuses. Ce cri anglais devenu universel dans mon sang, sans apparence de cri, sans forme humaine ni voix, ce cri épouvantable qui semble résonner du fond d'une caverne dont la voûte est le ciel, et semble raconter toutes les choses sinistres. Toutes les choses sinistres qui peuvent se produire au large, en mer, pendant la nuit. Tu faisais toujours comme si c'était une goélette que tu appelais. Tu disais ainsi, une main de chaque côté de la bouche, faisant un porte-voix de tes grandes mains tannées et sombres. « Ahoy ! Ce qu'on a, ahoy !»
Les livres qu'il trouva épars dans les cabines avaient été tellement gâtés par l'eau de mer et de pluie que le texte imprimé s'en était effacé. Mais il s'avisa qu'en faisant sécher au soleil ses pages blanches, il pourrait les utiliser pour tenir son journal, à condition de trouver un liquide pouvant tenir lieu d'encre. Ce liquide lui fut fourni inopinément par un poisson qui pullulait alors aux abords de la falaise du Levant. Il se hâta alors de tailler convenablement une plume de vautour, et il pensa pleurer de joie en traçant ses premiers mots sur une feuille de papier. Il lui semblait soudain s'être à demi arraché à l'abîme de bestialité où il avait sombré, et faire sa rentrée dans le monde de l'esprit, en y accomplissant cet acte sacré, écrire. Dès lors, il ouvrit presque chaque jour son logbook pour y consigner, non les événements petits et grands de sa vie matérielle, qu'il n'en avait cure, mais ses méditations, l'évolution de sa vie intérieure, ou encore les souvenirs qui lui revenaient de son passé et les réflexions qu'il lui inspirait. Une ère nouvelle débutait pour lui, ou plus précisément, c'était sa vraie vie sur l'île qui commençait après des défaillances dont il avait honte et qu'il s'efforçait d'oublier. C'est pourquoi, se décidant enfin à inaugurer un calendrier, il lui importait peu de se trouver dans l'impossibilité d'évaluer le temps qui s'était écoulé depuis le naufrage de la Virginie. Celui-ci avait eu lieu le 30 septembre 1759, vers 2 heures de la nuit. Entre cette date et le premier jour qu'il marqua d'une encoche sur un fût de pain mort, s'insérait une durée indéterminée, indéfinissable, pleine de ténèbres et de sanglots, de telle sorte que Robinson se trouvait coupé du calendrier des hommes, comme il était séparé d'eux par les eaux et réduit à vivre sur un îlot de temps, comme sur une île dans l'espace. Il consacra plusieurs jours à dresser une carte de l'île, qu'il compléta et enrichit par la suite au fur et à mesure de ses explorations. Il se résolut enfin à rebaptiser cette terre qu'il avait chargée le premier jour de ce nom lourd comme l'opprobre, île de la désolation. Ayant été frappé en lisant la Bible de l'admirable paradoxe par lequel la religion fait du désespoir, le péché sans merci et de l'espérance l'une des trois vertus théologales, il décida que l'île s'appellerait désormais Speranza, nom mélodieux et ensoleillé, qui évoquait en outre le très profane souvenir d'une ardente italienne qu'il avait connue jadis, quand il était étudiant à l'université de York.
Les objets rapportés de l'épave alimentèrent mes imaginations d'une dimension occidentale. J'étais prince, castillan, chevalier, dignitaire de grande table, officier de légion. J'allais entre des châteaux, des jardins de manoirs, traverser d'immenses salles habillées de velours, déambuler sur des pavés crasseux dans des ruelles jaunies par des lanternes huileuses, longer des champs de blé qui ondoyaient sans fin au pied de hauts remparts. Mais des images étranges surgissaient des trous de ma mémoire. Vrac de forêts sombres dégoulinantes de mousse. Des vignes de terre auréolées de cendres et de jasmin. Dunes de sable avalant l'infini. Falaises recouvertes d'oiseaux noirs battant des ailes cendreuses. Ou bien des cris de femmes qui mélangeaient l'émotion de la mort à des chants d'allégresse. À cela s'ajoutait un lot d'étrangetés qui semblait remonter de ma substance intime. L'arrivée d'un chacal qui embarrasse des dieux, des lézards noirs et blancs qui tissent des étoffes, des jumeaux dans une calebasse de mille, des bracelets de prêtres cliquetant autour d'un masque à cornes. Mais elles étaient tellement incompatibles avec l'ensemble de mes évocations que je les mis au compte d'un résidu de souvenirs appartenant à quelques marins vantards que j'aurais rencontrés. De fait, reliés ensemble, mon imagination à partir des objets et ma mémoire obscure ne faisait que chaos. Toute possibilité de mettre au clair mon origine réelle disparaissait alors. Quoi qu'il en soit, ces chimères ne durent pas être probantes. À mesure que j'affrontais la puissance ennemie qu'était cette île et son entour, il m'arriva de défaillir au point d'admettre cette absence d'origine personnelle. Abandonnant toute consistance, je m'imaginais crabe, poulpe dans un trou de poulpe, petit de poulpe dans une engeance de poulpe. Je me retrouvais à faire le crapotard dans les bulles d'une vase. Mais le pire surgissait lorsque j'atteignis le point fixe d'une absence à moi-même. Mon regard alors ne se posait sur rien. Il captait juste l'auréole photogène des choses qui se trouvaient autour de moi. je me mettais à renifler, à grogner et à tendre l'oreille vers ceux qui m'entouraient. Dans ces moments-là, je cheminais avec la bouche ouverte, dégoulinante de bave. Et je me sentais mieux quand mes mains s'associaient à mes pieds dans de longues galopades. Puis je m'en sortais, allais savoir comment. Et pour sauvegarder un reste d'humanité, je revenais à ces fièvres narratives qui allaient posséder mon esprit durant de longues années. Je n'avais rien trouvé de mieux que de m'inventer ma propre histoire, de m'ensourcer dans une légende. Je me l'écrivais sur les pages délavées de quelques épais registres sauvés de la frégate, avec le sentiment de la serrer en moi, à portée d'un vouloir. Sans doute jaillissait-elle d'un ou de deux grands livres restés enfouis dans mon esprit. Des livres déjà écrits par d'autres, mais que je n'avais qu'à réécrire, à désécrire, dont je n'avais qu'à élargir l'espace entre les phrases, entre les mots et leur réalité, pour les remplir de ce que je devenais sans vraiment le savoir et que j'aspirais à devenir sans être pour autant capable de l'énoncer.
aujourd'hui, le professeur Olibrius ne pouvant être présent, il ne pourra pas assurer son habituelle intervention. Il y a quelques jours, notre équipe étant sans nouvelles de lui et n'ayant pas réussi à le joindre, nous décidons d'aller à sa recherche. Nous nous rendons donc au seul endroit où nous pensons pouvoir le trouver. Son laboratoire de recherche en cosmologie pataphysique et cryptozoologie, dont il nous avait parlé à plusieurs reprises. Le bâtiment devant lequel nous arrivons est un phalanstère imposant qui mêle la brique rouge, le fer forgé, des décorations d'inspiration Second Empire et franc-maçonnique. La toiture alterne vastes verrières et dômes surmontés de paratonnerres. Cette curieuse construction n'est pas sans nous interroger et nous espérons bien obtenir du professeur Olibrius lui-même des explications à son sujet. Alors, après avoir franchi la porte de bois massif, restée entrouverte et sur laquelle nous avons pu lire l'inscription « Et non praeteribit », ce qui signifie « vous ne passerez pas », nous avons pénétré dans un vaste hall duquel partaient dans toutes directions de grands escaliers de pierre blanche. Dans ce dédale d'escaliers et de couloirs, de portes se succédant les unes après les autres, avec pour seule indication des chiffres romains gravés en leur centre, notre équipe s'est un peu perdue jusqu'à ce que nous arrivions par hasard à la machine à café. Là, nous trouvons le premier membre du personnel depuis notre entrée. À l'évidence, il est en pause. Nous l'interpellons pour lui demander où nous pourrions trouver le professeur. Et après un petit silence, il nous répond « Je vais vous donner un petit secret. Chaque jour, une fois par jour, offrez-vous un cadeau. » À ce moment-là, il agite un gobelet en plastique. Une tasse de bon et chaud café noir, comme ça. Il boit une gorgée. Ah mec, rien de tel qu'une super tasse de café noir. Nous restons dubitatifs quelques instants devant ce curieux énergumène. Mais il finit tout de même par nous indiquer une porte au bout du couloir. Lorsque nous frappons la porte, non pas sans avoir bu quelques cafés à la machine, une petite voix nasillarde nous invite à entrer. À l'intérieur, de toutes parts, de vieux manuscrits et autres papyrus délavés, des béchères et des éprouvettes, des mécaniques complexes, sans compter les animaux empaillés et toutes sortes de babioles issues d'autres dimensions dont nous n'avons pas réussi à imaginer la fonction. À travers tout ce fatras apparaît une tête à chevelure blanche et clairsemée, des petites lunettes rondes et un œil en verre, une moustache en guidon très soignée qui surmonte une pipe fumante aux odeurs de vieux Toby. A l'évidence, ce n'est pas le professeur Olibrius. Aucun signe de lui. Son collègue, le docteur Faustroll, nous explique qu'il n'est pas venu travailler depuis plusieurs jours. D'après lui, il serait parti dans les confins de la forêt de Fangorn pour se livrer à une étude ethnologique sur les peuplades isolées de cette partie du monde. Nous rentrons bredouille au studio sans savoir si nous pourrons compter sur le professeur cette semaine. Deux jours plus tard, alors que nous travaillons d'arrache-pied pour notre émission, un oiseau bariolé fait éruption dans le studio en s'engouffrant par la fenêtre. Totalement surpris par cet invité surprise, nous essayons sans succès de le chasser de nos locaux à grands coups de perche. Le volant décontracté finit par se poser au sommet de notre table de mixage, et c'est alors que nous remarquons le petit billet attaché à sa patte gauche. Lorsque nous nous approchons pour nous emparer du papier, la bestiole ne bronche pas. Ironiquement, le mot est écrit à la plume. Il dit « Suis souffrant, point, au plaisir mes bons compères, n'est-ce pas ?» Point. Alors, non pas adieu, mais à bientôt, monsieur le professeur. Explode into space, like a jewel.
La rubrique aléatoire.
La semaine dernière, nous avions tiré Nécrologie joviale.
Effectivement.
Donc, allons-y, n'est-ce pas ? Cette semaine fut particulièrement chargée en émotions. Je pense que nous l'avons tous remarqué. En effet, elle a commencé en beauté alors que Patrick Sébastien est mort d'un accident de serviette. Sa famille a déclaré, je cite, « C'est tout ce que l'on pouvait espérer. Il nous a quittés au sommet en faisant ce qu'il avait toujours aimé. » Nous avons d'ailleurs pu recueillir ses dernières paroles peu de temps avant l'instant fatidique. C'est génial! Il sera enterré mardi dans un cercueil spécialement créé par Sopiquet, imitation boîte de sardines. La suite de cette joyeuse série hebdomadaire fut marquée par la disparition de Johnny Hallyday, qui a allumé le feu trop vivement lors de son concert à Genève. Non content de mourir sur scène, il est également mort en Suisse, évitant ainsi à sa famille de payer des droits de succession. Après de nombreux appels, nous avons réussi à joindre sa femme, qui nous a assuré que ce n'était qu'une incinération passagère et que l'idole des jeunes de plus de 50 ans reviendrait bientôt pour une nouvelle tournée. Les people n'ont pas le monopole du décès. Ainsi, une vague de choléra a permis à l'industrie mortuaire de sortir de la crise en proposant des lots de cercueils climatisés à 4 ou 6 places pour des sommes modiques. Une affaire qui ravira petits et grands et qui marque l'entrée en bourse fulgurante de la Maison Borgnole qui rejoint directement le CAC 40 en signant un accord avec Samsung sur des urnes Galaxy auto-inflammables. Cette semaine fut certainement l'une des plus marquantes pour la profession des assistants funéraires puisqu'elle a également vu la toute première Undertaker Pride où près de 2000 croque-morts ont prouvé que les clichés sur leur profession étaient infondés. L'organisatrice de l'événement, Emma Cabre, nous a confié que dans un métier où l'on parle rarement à ses clients, il était important de savoir se montrer jovial et accueillant dès les premiers instants. Ainsi, les pompes funèbres Cabre proposent diverses animations pour les enterrements, allant du chanteur de yodel au cracheur de feu, en passant par le clown pour les enfants. Ce n'est pas parce que tonton est mort que ses blagues doivent être enterrées avec lui, a-t-elle déclaré avant de lancer une corde de pendu en guise de serpentin et de disparaître en dansant au rythme endiablé du Requiem en ré mineur de Mozart. Mais reprenons si vous le voulez bien. Suite à une fin délicieuse, Marc Lévy ne pourra pas finir son prochain livre « Je l'aime et elle-même » mais elle ne le saura qu'au dernier chapitre. Son enterrement sera diffusé en direct sur Canal+, et d'après un sondage IFOP sera suivi à 80% par la ménagère de plus de 40 ans. La nouvelle ravira les amateurs de littérature, autant qu'elle ravira Guillaume Musso, qui prévoit de doubler ses ventes à la prochaine rentrée littéraire avec « Je l'aime et il m'aime », mais il ne me le dira qu'au dernier chapitre. Enfin, c'est ce matin qu'a été rendue publique la mort de Robert Harlan à l'âge de 120 ans. Né en 1896 dans une petite ville de Picardie, Robert Harlan sombre dans la dépression à l'âge de 10 ans, en apprenant les terribles événements de la grève des mineurs de la Cananéa. En 1912, ses parents décident de l'envoyer en Amérique pour lui changer les idées. Le petit Robert embarque alors à bord du Titanic, mais toujours suicidaire, décide de quitter son bord le 13 avril à l'aide d'un canot de sauvetage, soit un jour avant le naufrage que nous connaissons. Se jetant à la mer, il est repêché par un navire japonais parti chasser la baleine. Il passa une grande partie de son enfance au Japon, dans l'espoir d'y apprendre la technique du seppuku, jusqu'en décembre 1941, où il est désigné comme pilote kamikaze pour Pearl Harbor. Y voyant un très bon moyen d'accomplir son funeste projet, il se jette sur le premier bâtiment ennemi. Malheureusement, un dysfonctionnement de son appareil l'envoie droit dans la mer, où il dérivera quelques jours pour se réfugier à Hiroshima, hospitalisé jusqu'en août 1945. Voyant que le pays du soleil levant ne l'aiderait jamais à accomplir son destin, il le quitte le 4 août 1945, soit deux jours avant le bombardement atomique. Las et épuisé, il rejoint l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, où il monte un groupement de fermes capitalistes espérant s'attirer les foudres du parti. Son entreprise fut découverte bien après, puisqu'il fut arrêté en 1991, ayant déjà amassé plusieurs millions, avant d'être immédiatement gracié par Gorbatchev, qui salua les efforts du camarade Arlan dans l'intégration de la Russie au monde capitaliste. Robert Arlan retrouve alors sa Picardie natale, où l'alcoolisme et les températures extrêmes accéléreront sans doute son décès, jusqu'en 2006, où il devint l'homme le plus vieux du monde. « Je ne sais plus quoi faire, je fume 5 paquets par jour, aidez-moi », a-t-il déclaré à l'occasion. Mais hier, Robert Arlan est allé trop loin en commandant un Uber à l'aéroport devant un chauffeur de taxi. Sa petite fille voit cette action comme l'œuvre d'une vie et espère marcher sur les traces de son grand-père. La rédaction souhaiterait également rendre hommage à l'un de ses collaborateurs, Thibaut Gamard, qui nous a quittés hier. Thibaut était un atout très précieux pour cette émission et son départ nous a laissé quoi ? Lui qui était si impliqué dans son travail, sa pause de RTT fut un choc pour nous tous et nous lui souhaitons un agréable week-end basque d'où il nous écoute. Alors à tous, je souhaite une bonne journée et un joyeux enterrement.
Merci beaucoup.
Tirage au sort de la prochaine chronique.
Tout à fait.
8.
Le 8 qui correspond à International.
Qui, rappelez-moi, qui l'a fait la semaine prochaine ? C'est, on a dit Justin, c'est ça ?
11.
Le 11, Rusé.
International, Rusé. Rubrique International, Rusé. Alors, international, peut-être il faut préciser, c'est quoi ? C'est genre revue de presse internationale.
C'est ça.
À l'international, un article, d'accord. Bon.
Bonne chance à lui.
Bon courage.
Si tu nous écoutes. L'anecdote.
Et oui, cette semaine, l'anecdote qu'on a retenue, c'est tirée de Diogène Laërce, donc l'incontournable, l'irremplaçable vie, doctrine et sentence des philosophes illustres. C'est dans le deuxième tome et le livre 8. Et on s'intéresse donc à Empédocle. Empédocle, selon Hippobotos, était fils de Méton et petit-fils d'Empédocle, et originaire d'Agrigente. Timée confirme le fait et nous dit que cet Empédocle, grand-père du poète, fut un homme très en vue. Hermip écrit exactement la même chose. Sur son origine, voilà ce que l'on a dit. Timée a dit qu'il fut disciple de Pythagore, qu'il fut convaincu de vol de discours et qu'on lui défendit d'assister aux entretiens de la secte, mésaventure qui était déjà survenue à Platon. Néante, de son côté, dit que jusqu'à Philolaos et Empédocle, les pythagoriciens faisaient leurs entretiens en public. Mais quand Empédocle eut vulgarisé leur théorie par ses vers, ils posèrent en règle formelle l'interdiction de divulguer la doctrine à aucun poète. Alcidamas dit que Zénon et Empédocle furent en même temps disciples de Parménide, puis ils le quittèrent. Zénon fonda alors une secte, tandis qu'Empédocle allait suivre l'enseignement de Pythagore, auquel il prit ses théories sur la nature, tandis qu'il imitait l'austérité et l'ascétisme de Zénon. Aristote dit qu'Empédocle fut l'inventeur de la rhétorique et Zénon l'inventeur de la dialectique. Il affirme qu'Empédocle imita le style d'Homère, qu'il était un maître en élocution et qu'il usait de métaphores et de toutes les autres figures propres à la poésie. Il ajoute même qu'il avait écrit, entre autres poèmes, une traversée de Xerxès et un hymne à Apollon. Sa fille les aurait brûlés par la suite, involontairement pour l'hymne, mais volontairement pour les vers sur la Perse, qui lui paraissaient imparfaits. Timée dit encore que cet homme avait en lui nombre de qualités admirables. Par exemple, au jour où les vents éthésiens soufflaient si fort qu'ils arrachaient les fruits, il fit écorcher des ânes et placer leur peau sur les collines et au sommet des monts pour arrêter leur souffle. Et comme les vents cessèrent, on l'appela l'arrête-vent. Héraclide dit qu'il dicta à Pausanias son livre intitulé « L'Apnoun ». Ce Pausanias était son mignon, il lui dédia son traité de la nature en ces termes.
« Pausanias, écoute, ô fils du sage Anchitès. »
Il a fait aussi sur lui cet épigramme.
Pausanias, médecin, fils éponyme d'Anchitès, Géla, ta patrie, a nourri un fils d'Ansclépios, qui sauva de nombreux malades cruellement atteints des demeures de Perséphone.
On dit qu'Agrigente s'appelait la Grande parce qu'elle comptait 80 000 habitants. C'est pourquoi Empédocle a dit, faisant allusion à leur vie luxueuse, « Les Agrigentins s'amusent comme s'ils devaient mourir le lendemain, mais ils ornent leur maison luxueusement comme s'ils devaient vivre éternellement. » On dit que ces purifications furent chantées à Olympie par le rhapsode Cléomène. Aristote dit qu'il était très libéral et très peu soucieux de commander, s'il est vrai, comme le dit Xanthos dans ses livres sur lui, qu'il refusa la royauté qu'on lui offrait, ce qui prouve clairement qu'il était attaché à une vie simple. Timée a dit la même chose et il voit dans ce caractère la cause pour laquelle Empédocle fut si populaire. Il raconte en effet qu'à un festin donné par les archontes, le dîner était fort avancé et l'on ne servait pas à boire. Les autres convives ne disaient rien, Empédocle se mit en colère et demanda qu'on lui en apportât. Son hôte lui expliqua que l'on attendait un grand personnage du Sénat. Dès qu'il arriva, il fut nommé symposiarque, c'est-à-dire roi du banquet, évidemment à l'instigation de celui qui l'avait invité, et il fit aussitôt sentir son pouvoir tyrannique. Il prescrivit en effet que l'on boirait et qu'en cas de refus, on verserait la vin sur la tête du récalcitrant. Sur le moment, Empédocle se tut. Mais le lendemain, il fit appeler au tribunal et condamner à mort à la fois l'hôte et le symposiarque, car c'était là, disait-il, la préformation de la dictature. Une autre fois, le médecin Leo, Acron en grec, le médecin Leo demandait au Sénat qu'on lui réservât un emplacement pour élever un monument à son père, parce qu'il avait été un des médecins les plus importants. Mais Empédocle monta à la tribune et s'y opposa et, après avoir parlé longuement de l'égalité, lui posa encore cette question. « Quel éloge écrirons-nous sur le monument ? Celui-ci peut-être ?»«
Acron iatron, Acron acregantinon, patros acru cryptei. » Crimnos acros, patridos, acrotates.
C'est-à-dire, le haut médecin de la haute ville, fils d'un père très haut, repose dans le haut de la haute colline de sa haute patrie. Quelques auteurs citent encore le deuxième vers ainsi.
Acrotates corifes, tumbos acros katerei.
Repose dans le plus haut tombeau, au plus haut d'une hauteur. Toutefois, Timée dit qu'il n'était pas tout à fait favorable à ce régime démocratique. Il y a dans ses œuvres des passages où l'on peut voir de l'orgueil et de la suffisance. Ne dit-il pas « Salut, je vais chez vous comme un dieu immortel, non comme un homme », etc. Pendant qu'il séjournait à Olympie, il chercha à se faire remarquer et réussit à devenir le sujet des conversations de tout le monde. Timon ne l'a pas épargné. Il le raille en ces termes. Et Empédocle, la crécelle de la place publique, tout ce qui était faible, il l'a pris pour principe, et il a institué des principes qui ont demandé d'autres. Voilà, alors merci Diogène Laërce pour cette anecdote de cette semaine.
Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there is such a lot of work to see. We're after the same rainbows and round the bend.
Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés sur les ondes de Radio Campus 106.6 MHz. N'hésitez pas à nous faire savoir vos remarques, à nous faire parvenir vos commentaires ou encore vos courriers de lecteurs. Vous pouvez également nous réécouter sur le site fabulanarratourblog.wordpress.com où vous trouverez également les références des textes lus à l'antenne. La semaine prochaine, vous retrouverez une émission spéciale avec une création radiophonique originale. Ensuite, la prochaine thématique qui traitera notre émission sera celle de la fin, F-A-I-M, je précise. Vous étiez en compagnie de Victor, Estelle, Nicolas et Arthur sur Radio Campus. Nous vous laissons entre les mains de Radio Campus et du programme suivant. En attendant, vous écoutez Kid Koala Moon River et ensuite viendra Secret Chief, Horseman of the Invisible. Bon week-end!
Say to you, my girl, all my tears come rolling. All my tears come rolling over you. Oh, you, oh, you. I need a bean hug, I need a bean kiss, I need a bean hug and squeeze like this. Oh, 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 oh. I love you. You.